Sajo et ses castors par Gray Hall, quatrième cassette, première face, page 123. Chapitre 10, le panier vide. Après avoir vu disparaître sa sœur, Chapian passa peut-être une bonne minute à asperger ses propres vêtements et à glisser les pagaies dans leur courroie. Comme il eût souhaité avoir la main de son père pour le guider. Avec sa jeune expérience, il faisait de son mieux pour sauver leur vie à tous trois, car il considérait le petit castor presque comme une personne, comme un petit frère qu'il fallait arracher aussi au péril, et il espérait qu'il avait pris le meilleur parti. En attendant, Sajo était toute seule en avant. Vite, il fallait la rejoindre. Soulevant la pirogue, il la retourna, plaça sa tête entre les pagaies qui formaient ainsi une sorte de joug, et se mit promptement en route. Mais pendant ce bref arrêt, le feu avait gagné sur lui, et tout en courant aussi vite qu'un garçon de 14 ans peut le faire avec une embarcation de 12 pieds, 4 mètres, de long sur les épaules, il voyait sur le côté se dresser à peu de distance un véritable mur de flammes crépitantes. Des arbres s'écoulaient avec fracas. D'autres éclataient avec des détonations semblables à des coups de fusil. Plus loin, il dut traverser à toute vitesse une masse de fumée cramoisie. À demi suffoqué, les tempes battantes, il serra les dents et tint bon, tandis que tout près de lui, la forêt en flammes pétillait, tonnait, mugissait. Des têtes entières d'arbres s'embrasaient d'un seul coup, avec un horrible bruit de déchirure, et les flammes sautaient d'un arbre à l'autre, comme des lanières de feu, se rapprochant de plus en plus de la piste. Au-dessous du canot, il restait heureusement un peu d'air respirable, mais la chaleur était insupportable. À un moment, un sapin en flammes vint s'abattre avec fracas si près du portage que la tête embrasée tomba en travers de la piste dans un tourbillon d'étincelles et de langues de feu. Chapian dut passer un précieux instant à attendre que la première furie des flammes dévorant la broussaille se fût apaisée. Avec la pirogue sur les épaules, il franchit alors d'un bond le tronc incandescent. La chaleur qui s'en dégageait l'enveloppa d'un souffle brûlant qui faillit le suffoquer, et en touchant terre, il tomba sur les genoux. Il se redressa aussitôt et enleva le canot avant que le feu ne l'eût endommagé. Néanmoins, la queue de renard s'était enflammée, et en un clin d'œil, tous ses poils furent grillés. Mais Chapian continua d'avancer. Sur l'embarcation retournée, tombaient de larges plaques d'écorce enflammée et des cendres brûlantes qui continuaient à fumer et à rougeoyer, si bien que s'il eût été quelqu'un marchant derrière, Chapian aurait pu croire que la pirogue avait déjà pris feu, ce dont, à vrai dire, elle n'était pas très loin. Chapian, maintenant, commençait à s'étonner de ne pas avoir encore rattrapé sa sœur. Sajo devait aller plus lentement que lui, car le panier n'était pas un fardeau avec lequel on put facilement courir. Au lieu que le canot d'écorce, bien que beaucoup plus lourd, formait, même pour un adolescent, un poids mieux réparti et mieux équilibré. Soudain, il pensa avec terreur que Chilaoui avait dû percer une ouverture dans son panier et s'échapper en cours de route, et que tandis que Sajo s'attardait à le chercher, il les avait peut-être dépassés. Juste à ce moment, la fumée se dissipait devant lui et une bouffée de vent lui arriva du lac. C'est alors qu'étourdi, chancelant, la vue brouillée par les larmes qui ruisselaient de ses yeux, il buta de nouveau et cette fois tomba lourdement sur quelque chose de mou qui barrait son chemin. Là, en travers de la piste, gisait Sajo, le visage contre terre. Une de ses mains étreignait le panier, mais celui-ci était vide. Chilaoui avait fini par s'ouvrir un passage et s'était enfui. Sachant à peine ce qu'il faisait, Chapian se dégagea de la pirogue, souleva Sajo, se remit sur ses pieds comme il put, et hoquetant, les oreilles bourdonnantes, les genoux pliants sous le fait, il transporta sa sœur en chancelant jusqu'au bord du lac. Il l'étendit à terre, aspergea d'eau son visage et cria « Sajo, Sajo, parle-moi, réponds-moi » Sajo ouvrit les yeux et murmura d'une voix faible. Chilaoui. Et Chapian n'osa pas lui dire qu'il n'y avait plus de Chilaoui, mais seulement un panier vide. Mais voilà que la fumée les rejoignait, les enveloppait de nouveau. Tout le portage était en flammes. Prenant juste le temps de mouiller le châle de sa joue et de le lui jeter sur la figure, Chapian retourna chercher la pirogue. Elle n'était pas bien loin, heureusement. Incapable de la soulever, il la saisit par une extrémité, la traîna et la mit à l'eau, l'avant contre la rive, afin de la charger plus rapidement. Il y jeta vivement les ballots, puis, soulevant sa joue, la déposa à l'avant. Celle-ci se cramponnait au panier et gémissait tout bas. « Chilaoui, Chilaoui, Chilaoui !» Tout ceci ne prit qu'un instant. Après quoi, bondissant légèrement par-dessus les ballots, Chapian gagna l'autre extrémité et se mit en devoir de lancer le bateau, tandis qu'un gros sanglot lui montait à la gorge à la pensée de leur petit ami demeuré en arrière et auquel il était désormais impossible de porter secours. Cependant, pensait-il, avec l'instinct dont elle était douée pour trouver l'eau, la petite bête avait dû gagner le lac, et si elle était perdue pour eux, du moins devait-elle être en vie. À cet instant, derrière lui, au large du lac, un claquement sec se fit entendre sur l'eau qui rejaillit. Et c'était Chilaoui. Chilaoui, bien vivant et en excellente santé, s'il vous plaît, qui exprimait à l'aide de sa queue son opinion personnelle sur l'ennemi rouge auquel il venait d'échapper de si peu. Chapian cria bien fort. « Sajo, Sajo, Chilaoui est sauvé, Chilaoui est sur le lac, regarde !» À ces mots, Sajo, couché à l'avant de la pirogue, fondit en larmes et sanglota comme si son cœur allait se briser. Elle s'était retenue de pleurer jusque-là, et aussi longtemps qu'il lui plairait, oui, à présent, elle pouvait pleurer de joie. Chilaoui était à bonne distance au large et ne courait aucun risque. Mais la pirogue, mal orientée, ne pouvait pas partir vite et se trouvait encore en eau peu profonde et trop près du bord pour être hors de danger. Tandis que Chapian s'efforçait de lancer son bateau assez loin pour le tourner dans le bon sens, et tout cela prenant moins de temps qu'il n'en faut pour l'expliquer, à la lisière de la forêt, le feu dévorait un énorme pin creux incliné au-dessus de l'eau. Soudain, l'écorce desséchée par l'ardente chaleur se fendit largement. La langue de feu se précipita dans le tronc creux comme dans un tuyau de poêle et gagna d'un seul bond le faîte de l'arbre. La large tête en éventail du pin géant, qui pendant plusieurs centaines d'années avait orgueilleusement dominé cette solitude, devint brusquement une masse de flammes qui s'élancèrent en l'air à une hauteur égale à celle de l'arbre lui-même. Alors, la base consumée, incapable de résister à la violence impétueuse des flammes, se mit à céder et l'énorme tronc se pencha vers le lac. Un instant, il se balança latéralement, puis, s'inclinant dans la direction de la pirogue, ce géant de 100 pieds, 30 mètres, bascula lentement d'abord, puis de plus en plus vite, avec son effrayant éventail de flammes. Surmontant son indicible terreur, Chapian arrêta court la pirogue et d'un effort désespéré, la lança brutalement contre la rive, pendant que juste derrière lui, l'arbre embrasé plongeait dans le lac avec un bruit assourdissant. Le fracas de la chute et le sifflement produit par la rencontre du feu et de l'eau durent se faire entendre à plus de 1500 mètres de distance. Comme les flammes s'éteignaient, le dégagement de vapeur et de fumée épaissit l'atmosphère, empêchant Chapian de rien distinguer, et les vagues soulevées par ce terrible plongeon secouèrent violemment la pirogue. Sajo, folle de terreur, bondit sur ses pieds dans l'embarcation dangereusement instable et poussa des cris perçants. Chapian, sautant dans l'eau, courut jusqu'à elle, la prit dans ses bras, la réconforta et l'assura qu'il n'y avait plus rien à craindre. Et au large du lac, Maître Chilaoui frappa l'eau de sa petite queue comme pour jeter un défi aux éléments, à moins qu'il ne voulût imiter le bruit de la chute de l'arbre dans l'eau, auquel cas je puis vous assurer que ce n'était qu'une bien faible imitation. Très peu de temps après, la pirogue se trouva lancée, et cette fois sans accident. Le petit castor, très heureux, semblait-il, d'avoir été retrouvé, vint se livrer de la meilleure grâce du monde. soulevé par son impudente petite queue, il fut remis dans le bateau, où il grimpa sur les ballots, flaira les enfants, courut de tous côtés, et fit montre à la fois d'une grande joie et d'une vive excitation. Il ne paraissait pas avoir perdu un seul poil, ce qu'il devait sans doute à sa petite taille, tout s'étant passé au-dessus de sa tête, tandis qu'il courait au ras du sol. Maintenant, il avait le cœur en fête, et une scène touchante célébra la réunion des trois amis au large du lac. Il n'était pas très loin que déjà Sajo se sentait mieux. Elle fut bientôt assez remise pour s'asseoir, mais Chapian ne lui permit pas de ramer. Il l'installa en face de lui et elle lui conta comment, suffoquée par la fumée brûlante, incapable de rien voir autour d'elle, elle n'avait pas pu rattraper Chilaoui quand il s'était échappé du panier. Alors tout s'était brouillé dans sa tête et elle était tombée où elle n'en savait plus rien et n'avait pas pu se relever. Ensuite, elle ne se rappelait plus rien jusqu'au moment où elle avait vu Chapian qui lui arrosait d'eau la figure. Elle ne se souvenait pas d'avoir appelé Chilaoui, bien qu'elle sût qu'il s'était enfui, l'ayant vu, comme en rêve, disparaître à travers les nuages de fumée. Quand elle eut terminé son histoire, Sajo se mit à dévisager son frère et éclata de rire. Et plus elle le regardait, plus elle riait. Si bien que Chapian, saisi d'inquiétude, se demandait si les dangers qu'elle avait traversés ne lui avaient pas troublé le cerveau, lorsqu'elle s'exclama « Chapian, ta figure, si tu te voyais, tu n'as plus de sourcils !» Soudain, Sajo s'arrêta de rire et passa ses doigts sur ses propres sourcils en demandant d'un air anxieux « Et les miens, ne sont-ils pas abîmés ?» En même temps, elle se penchait par-dessus bord pour tâcher de voir son image dans l'eau. Mais la pirogue dans sa course en ridait la surface et Sajo, bien entendu, ne pouvait rien voir. Elle s'écria très inquiète « Oh, je t'en prie, arrête un instant que je puisse voir !» « Dis-moi, ai-je encore mes sourcils ?» Et elle s'agitait à tel point que Chapian se mit à se moquer d'elle à son tour et ne voulut point d'abord lui répondre. Il finit pourtant par la rassurer. Oui, ils étaient bien là, en bon état, tous les deux. En effet, Sajo avait ses sourcils intacts, son visage étant resté couvert presque tout le temps. « Mais cela était bien féminin, se disait Chapian. » De s'inquiéter d'une chose aussi insignifiante que des sourcils, alors qu'ils venaient tous de frôler la mort de si près. C'était vrai. Un peu plus et cette histoire ne se serait pas bien terminée, je vous assure. La pirogue avait beaucoup souffert et prenait l'eau d'une façon sérieuse. Mais autrement, tout le reste n'allait pas mal. Cependant, derrière eux, le feu ravageait le portage et envahissait la région avoisinante, comme une armée conquérante, ne laissant sur son chemin que débris noircis et fumants. Chapian et Sajo étaient sauvés maintenant, et à part leurs têtes douloureuses et leurs yeux brûlants, ils se sentaient remplis du plus bel entrain. À Chapian en particulier, la pensée qu'il avait vaincu le feu donnait beaucoup de confiance, car pour parler comme Sajo, il ne pouvait guère rencontrer quelque chose de pire qu'un incendie de forêt. Et puisqu'ils avaient réussi à passer à travers les flammes, du moins se l'imaginait-elle, rien ne pouvait maintenant les empêcher de rejoindre Chicani. Pour ce qui était de Chilaoui, il s'était tiré de ce mauvais pas mieux que tout le monde et visiblement n'y pensait déjà plus. Étendu au fond de l'embarcation, la tête confortablement appuyée sur les genoux de Sajo, il ne tarda pas à s'endormir. L'après-midi, ayant abordé une petite île au milieu du lac, ils établirent de bonne heure leur campement dans un endroit sûr et tranquille où ils purent faire le bilan des dégâts. Chapian ne pouvait certes pas remédier aux dommages causés à ses sourcils qui, avec le temps, se chargeraient d'ailleurs de repousser tout seul. Mais il avait fort à faire pour réparer la pirogue. La pimpante et fort jolie queue de renard n'était plus qu'un bout de peau noirci et recroquevillé, et l'œil vigilant au regard aigu avait à peu près disparu, la peinture boursouflée et fendue par la chaleur s'étant écaillée en partie. Le rude choc de l'avant contre la rive, dans la brusque manœuvre opérée pour éviter la chute de l'arbre, avait arraché au bateau une large plaque d'écorce. La gomme d'épicéa avait fondu, et les braises tombées sur le fond de la pirogue pendant le transport étaient demeurées brûlantes assez longtemps pour entamer et amincir l'écorce sur un bon nombre de points. La tente et les couvertures avaient aussi quelques trous faits par des flamèches. Toutefois, les dégâts dans l'ensemble étaient insignifiants et on s'en tirait somme toute à bon compte. Le panier de Chilawi avait perdu son couvercle et l'un des deux côtés était percé d'un large trou. Contribution personnelle de M. Chilawi au dommage. Mais il y avait beaucoup de boulot dans les barrages et Chapian leur enleva plusieurs plaques d'écorce. Il en appliqua une sur le côté troué du panier, refit un couvercle qui s'adaptait aussi bien que le premier et remit la pirogue en état à l'aide de quelques morceaux d'écorce et de gomme fraîche. Pour ce qui était de l'œil et de la queue, on attendrait à plus tard. Pendant ce temps, Sajo travaillait activement avec son aiguille et son fil, objets dont une femme indienne ne se sépare guère. Bientôt, la tente et les couvertures furent raccommodées, et quand l'obscurité tomba, tout était prêt pour un départ matinal le lendemain. Ce soir-là, assis côte à côte, les yeux tournés vers la rive, Chapian et Sajo se disaient qu'ils avaient bien failli ne pas revoir leur père. Et ils ressentirent son absence plus cruellement encore que de coutume. Ils continuaient à entendre le gémissement lointain de l'incendie, et sur une grande étendue, le ciel restait embrasé par le rayonnement magnifique et terrible du fléau le plus grand que connaissent ces solitudes et contre lequel il n'est point de défense. Ce fléau, un rien suffit à le déchaîner, si bien que de grandes forêts, des milliers d'animaux et souvent la population de villages entiers ont été détruits à cause d'une simple allumette maniée par un imprudent. Plus tard, Chapian, couché sur son lit de broussailles, regardait le reflet rouge décroître peu à peu sur la toile de tente à mesure que l'incendie s'éteignait par les marais et les rochers dénudés où sa course l'avait amené. Et le jeune garçon en vint à l'agréable conclusion que s'il était encore considéré comme un enfant, au train dont allaient les choses, il ne tarderait pas à être un homme pour de bon. Il considéra Sajo profondément endormi, avec Chilawi penotonné dans ses bras, poussa un gros soupir et, fermant les yeux, les rejoignit bientôt au pays des rêves. Chapitre 11. Le frère blanc des Indiens. Encore 2 jours de voyage et ils arrivèrent à Rabbit Portage, dont le nom indien est Wapoos Ka Nimich, le pays où dansent les lapins. Ce nom lui a été donné parce que pendant un certain temps, les lapins y pullulèrent. Or, ces bêtes ont une façon toute particulière de frapper le sol de leurs pattes de derrière, et quand elles sont nombreuses à se livrer à cet exercice au clair de lune, on croirait qu'elles sont en train de danser. Nous appellerons néanmoins cet endroit Rabbit Portage, comme le font les Blancs. Si tu ne sais pas l'anglais, je te signale que Rabbit Portage veut dire le portage des lapins. Nos jeunes gens plantèrent leur tente près du poste de la compagnie, au bord d'une petite baie où Chilawi pouvait s'ébattre en toute sécurité, car le vrai terrain de campement des Indiens, quoique vide pour l'instant, devait être hanté par les chiens d'attelage qu'on laisse en état chercher eux-mêmes leur subsistance. Mourant de faim, ces chiens sont capables de dévorer tout ce qui n'est pas du bois ou du fer, tue toutes les bêtes de petite taille, et il faut même avoir soin de tenir hors de leur portée les très jeunes enfants. Dès que la tente fut dressée, qu'une bonne couche de broussailles épaisse et élastique eût été étalée sur le sol, une provision de bois faite et tout bien rangé à la place voulue, Chapian prit la pirogue et se rendit au poste de fourrure. Il y trouva le trafiquant, le même qui était venu chez eux quelques semaines auparavant. Cet homme était nouveau dans le pays. Il savait à peine quelques mots d'indien et l'anglais de Chapian n'était guère brillant. Dans cette partie du Canada, on parle anglais, les blancs, ou indiens, les indiens. Tu sais qu'il y a une partie du Canada, la province de Québec, où on parle français. Il emmena donc le jeune garçon dans son petit bureau derrière le magasin, où il serait plus tranquille, et tous deux s'efforcèrent de se comprendre mutuellement. Chapian expliqua de son mieux ce dont il s'agissait. Il dit que tout semblait aller mal depuis que Chicani avait été vendu, que sa sœur était abattue, que Chilawi s'ennuyait et qu'ils étaient tous très malheureux. Le trafiquant, assis derrière son bureau, avait l'air d'un juge plutôt que d'un commerçant, l'écoutait avec attention et quand Chapian eut fini, il demanda « Ainsi, Chila... Chila quoi ?»« Chila oui, » rectifia Chapian. « Bien, bien, » poursuivit le trafiquant d'un air sévère. « Ainsi, Chikali s'ennuie, hein, et ta sœur aussi. Et tu veux qu'on te rende Chik... comment s'appelle-t-il celui-là, hein ?» Tu veux Chinawi, hein ?
Oui, répondit Chapian avec calme. Moi, vouloir reprendre Chicani.
Le trafiquant s'éclaircit la voix d'un air bourru et renifla d'importance. Ah, quelle histoire pour une bête géniarde à peine plus grosse qu'un tout petit chien. Mais Chapian continuait d'une voix basse et égale, en choisissant ses mots avec lenteur et circonspection dans la langue du trafiquant qu'il connaissait si peu. « Moi, travailler pour vous. Moi, faire du bois, il voulait dire couper du bois, pour votre hiver. Moi, travailler tout l'été pour vous. Vous vendre aussi mon fusil. Moi, échanger le bois et le fusil contre Chicani. Voilà mes paroles. » Mais à la fin, ses paroles tremblaient un peu, car sa carabine lui était très chère.
« Je ne veux pas de ta carabine, » dit sèchement le trafiquant. « C'est ce poste qui te l'a vendue, et je ne te la reprendrai certainement pas. Nous ne sommes pas des prêteurs sur gage. »
Chapian, qui n'avait aucune idée de ce que pouvait être un prêteur sur gage, considéra ses mocassins pour cacher le tremblement de ses lèvres, puis il releva fièrement les yeux et dit à voix contenue « Alors, moi, travailler tout l'hiver aussi bien, travailler pour vous toute l'année, travailler une année pour Chicani. »
« Quelle sornette !» pensa le trafiquant. « Ce gamin est-il fou ?»
Visiblement, cet homme ne connaissait guère les Indiens. Soudain, il demanda « As-tu vu l'incendie ?»«
Oui, » répondit Chapian. « Moi, Sajo, Chilawi, passé à travers le feu. Tout le portage brûlé. Failli brûler, nous aussi. »
L'homme blanc le dévisagea. « À travers le feu ?» Impossible, fut-il sur le point de dire, et il allait reprendre son ton rogue, mais il se ravisa et se contenta de tout sauter de nouveau. Il voyait bien que ce petit bonhomme était tout à fait sérieux, mais en même temps il savait qu'il ne pouvait rien pour lui et le regrettait sincèrement. Chicani avait été revendu, et cette fois à des gens de la ville qui possédaient un jardin public où des bêtes sauvages étaient exposées dans des cages. Chicani, une bête sauvage! Car un castor vivant était un animal rare et précieux. Le trafiquant expliquait tout cela à Chapian avec le même ton rude, un ton d'autorité, pensait-il, parce qu'il était nouveau dans le métier et croyait que c'était la façon dont il faut parler aux Indiens. Pourtant, en dépit de sa figure rouge et bourrue et de l'éclatdure de ses yeux bleus, il n'était pas l'ogre qu'il essayait de paraître, et il finissait par éprouver un peu de malaise. Il prit un accent aussi bienveillant qu'il le pouvait pour dire à Chapian que Chicani, qu'il appela cette fois Chicarou, était parti depuis un mois et avait été vendu $50. L'histoire se passe vers 1935. Ça correspondrait à plusieurs milliers de francs nouveaux d'aujourd'hui. $50! L'enfant sentit son courage l'abandonner. $50! Il n'avait jamais vu pareille somme. Les trafiquants ne donnaient presque jamais d'argent. Ils fournissaient des marchandises en échange des fourrures, parce que les Indiens, s'ils avaient été payés en argent, auraient été obligés de le dépenser au poste même. C'était donc une simplification. $50! L'offre de son travail et sa carabine, refusées toutes les deux, et il n'avait rien d'autre à donner. Mais ce n'était pas son habitude de se décourager si vite. Il retourna au camp et dit à Sajo qu'il avait découvert l'endroit où se trouvait Chicani. Cette nouvelle fit grand plaisir à Sajo, car son frère ne lui dit rien de l'insensibilité du trafiquant, non plus que de l'énorme somme d'argent qu'il serait dans l'impossibilité de se procurer. Sajo pensa qu'il n'y avait plus rien à faire qu'à attendre que Chapian eût coupé un peu de bois pour gagner le prix de leur voyage jusqu'à la ville, ainsi qu'une petite somme pour racheter Chicani. Et elle avait raison. Il n'y avait pas autre chose à faire. Mais il ignorait combien il y avait peu d'espoir que cette chose pût se réaliser. Fin de la première piste de la quatrième cassette, page 139, Sajo et ses castors, par Gray Hall.